Bonjour à tous, encore merci de nous avoir accueillis ce week-end. C'est vraiment, comme Vanessa a dit, on a été bénis. On a vraiment, vraiment aimé être avec vous. On a fait de belles rencontres. Vous êtes de belles églises. C'est vraiment, je veux vous encourager à continuer sur cette trajectoire. On a hâte de voir tout ce que le Seigneur va faire en vous et à travers vous dans l'avenir. Le thème de ce week-end, équipé pour une vie abondante. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Et ça, c'est une vérité, les amis, que le voleur vient pour voler, abattre et détruire. Et une des façons qu'il le fait, c'est qu'il va nous distraire de ce qui est important. N'est-ce pas? Jésus a dit, « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » Et c'est véritablement la volonté de Dieu pour chacun de nous qu'on ait cette vie en abondance, qu'on marche dedans de plus en plus. Et parfois, le chemin pour cette vie abondante est surprenant. Jésus nous dit « Renoncez à votre vie et vous la trouverez. » Et plein d'autres paroles. Aujourd'hui, je veux partager sur le thème d'avoir une perspective de l'éternité. Parce qu'on est distrait par ce monde. On pense que c'est notre destination, mais ce n'est pas notre destination. Et j'aimerais nous encourager avec une perspective de l'éternité. On va lire Luc chapitre 16, du verset 19 à 31. Alors, je ne vais pas faire une exégète de ce texte. Je ne vais pas ouvrir ce texte et prêcher dedans. Je vais juste utiliser ce texte pour illustrer quelques propos. Mais je laisserai vos anciens répondre à vos questions après. C'est un plaisir. C'est une joie. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un homme couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans ma maison, dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » C'est terrible, n'est-ce pas? Imaginez, j'ai 5 frères, fait ressusciter Lazare pour aller les sauver. Je n'ai pas envie qu'ils viennent là. Même dans ce lieu de tourment, il y a un peu de compassion de dire, « Je ne veux pas que ma famille vienne ici. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont déjà la parole de Dieu. » Qu'il les écoute. L'autre prit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se révélait d'entre les morts. En fait, ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu, ce que Vanessa a dit, est plus puissante que le témoignage de quelqu'un qui revient des morts. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ne sous-estimons pas la puissance de la parole de Dieu. Mais on voit ici un contraste entre un homme qui vit bien dans ce monde et un pauvre nommé Lazare. Et dans l'éternité, ce rôle est inversé. On voit l'homme riche en souffrance et Lazare sur le sein d'Abraham. Alors juste pour clarifier, c'est pas que tous les hommes riches seront en souffrance dans le ciel. C'est pas ce que ce texte dit. Juste pour clarifier. Mais j'aimerais vous soumettre que vivre une vie abondante nécessite d'avoir une vue ou une perspective de l'éternité. Si on vit fixé sur ce monde, les amis, on va être dans ce tourbillon, dans cette course, et on n'aura pas cette vie abondante que Jésus nous promet. Vous savez que la Bible nous dit que nous ne faisons que traverser ce monde. Nous sommes des étrangers et des visiteurs dans ce monde. Et notre temps dans ce monde est véritablement très très court. Alors j'aimerais un volontaire. Tim, peut-être que tu peux m'aider. Tu vas nous faire une danse. Non, viens. Je rigole. Est-ce que tu peux prendre... Peut-être va plutôt vers là-bas et on va étendre ça. Donc imaginez, vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Imagine que c'est une vue de l'éternité. Et imaginez que ce ruban continue pour des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est votre vie dans l'éternité. Maintenant, imaginez que votre vie sur Terre, c'est simplement ce petit bout. Mais on pense, et le diable vient nous distraire, il vient pour voler, pour dérober, pour tuer. Il nous dit, il vient nous distraire pour vivre uniquement pour ça, et on oublie le reste. Et c'est une vraie tragédie, les amis, quand on est distrait uniquement pour cette vie, et on oublie la perspective de l'éternité. Merci beaucoup, Tim. Maintenant, la danse au ruban. Et vraiment, parfois, on oublie qu'il y a l'éternité. On vit pour ce monde, on est tracassé des soucis de ce monde. On veut vivre notre confort, on veut construire le paradis. On a passé presque 7 ans à Dubaï et on a visité récemment encore. Et au fait, Dubaï veut se créer un mini paradis, au fait. Et c'est ce qu'on essaye de se créer dans ce monde, ce mini paradis. Et tout le monde regarde, on avait 2 jeunes avec nous, 2 jeunes de 20 ans, et ils regardaient ça et ils disent « Waouh, c'est tellement bien de vivre ici ». C'est tellement plus confortable qu'à Paris, parce qu'au fait, ils essayent de se construire un petit paradis où il y a tout le confort, mais c'est juste sur la surface, parce qu'en bas, il y a une misère pas possible, en dessous. Mais je veux vous dire que notre temps dans ce monde, il est bref, et ce n'est pas notre destination finale. Dieu nous appelle à mettre notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui vient nous sauver. C'est lui qui vient nous transporter, nous libérer du royaume des ténèbres pour nous apporter dans le royaume de son Fils et pour nous donner la vie éternelle sur le sein d'Abraham à tout jamais. Et loin des tourments, de la souffrance qu'il y a en enfer, cette souffrance constante où on ne meurt jamais, mais on souffre éternellement. Alors cet homme riche vivait dans le confort, sans regard sur son entourage, ni sur l'éternité. Il avait sur sa porte l'opportunité de faire du bien, mais il l'a ignoré. Alors il arrive dans le séjour des morts, dans l'enfer, dans cette tourmente terrible. Il voit Abraham et Lazare au loin. Il demande compassion, mais c'est trop tard. Et il y a des choses qu'il aurait pu faire sur terre, qui ne l'a pas fait. Et c'est trop tard maintenant. Alors il intercède pour sa famille. Envoie Lazare, s'il te plaît, dans la maison de mon père pour avertir mes frères. Je n'ai pas envie qu'ils me rejoignent dans cette souffrance. Si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils croiront. Ils changeront radicalement. Ils se repentiront. Et on peut penser, comme cet homme parfois, si Dieu voit les miracles éclater parmi si le monde voit les miracles éclater parmi nous, ils vont croire. Ce n'est pas forcément vrai. Ça va certainement interpeller. La sagesse de Dieu dépasse la nôtre. Dieu veut utiliser des gens ordinaires comme toi et moi. Il utilise la folie parfois pour confondre les sages. Il utilise sa parole comme moyen, inspiré de son esprit, comme moyen de pénétrer les cœurs et de sauver. Et on se doit, les amis, de continuer à partager sa parole. Alors j'aimerais juste nous inspirer ce matin avec, essayer de nous inspirer avec. Il y a des choses qu'on peut faire ici pendant qu'on est sur terre. Et j'aimerais essayer de nous inspirer avec ça, qu'on ne pourra peut-être pas faire plus tard. Et la première chose que je veux dire, on est appelé à aimer notre prochain. Au fait, l'amour doit être au centre de notre foi. L'amour doit être au centre de nos actions. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau dans Jean 13, 34, 35. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Vous savez ce qui a transformé l'Église primitive? Ils ont retourné le monde sens dessus-dessous, pas par leur théologie. Et ils avaient une bonne théologie, je pense. Pas aussi bonne que la nôtre, parce qu'on l'a développée depuis. C'est une blague. Mais au fait, ils ont retourné le monde sens dessus-dessous par leur amour. Au fait, c'était les seuls qui secouraient les orphelins et les veuves qui étaient délaissés dans la rue. Et la société voyait ça et dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Les amis, l'amour doit être le centre de tout ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Il nous donne ces merveilleux passages dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Il parle des dons de l'esprit. Que l'Esprit veut nous donner des dons de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de opérer des miracles, j'oublie les autres. Et puis le chapitre 14, ça c'est au chapitre 12, le chapitre 14, il nous dit voilà comment exercer ces dons au sein de l'Assemblée. Mais au milieu, il nous dit voilà la motivation pour ces dons, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Et on nous dit, quand je parlerai la langue des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et après, il nous challenge. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. N'est-ce pas? Waouh! Quand on lit ça, on dit « Seigneur, aide-moi. Aide-moi. On n'a qu'à commencer. L'amour est patient, juste ça. Dépêche-toi, Fred. Passe aux autres points, s'il te plaît. L'amour est patient. Seigneur, aide-moi. L'amour endure tout. Seigneur, aide-moi. L'amour pardonne tout. Waouh, tout. L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Les amis, quand on a une communauté qui vit comme ça, et la seule façon qu'on peut aimer, les amis, c'est que cet amour vient de Dieu. Il est amour et il nous a aimés en premier. Et c'est pour ça qu'on peut aimer à notre tour. Quand je dis ça, je pense qu'il y a énormément de travail encore à faire dans mon cœur, dans chacun de nos cœurs. Et je veux te poser la question, qu'est-ce que l'amour demande de toi? Qu'est-ce que l'amour demande de toi? Dans tes relations, dans la société, dans ton environnement, dans ta ville, au sein de ton église? Qu'est-ce que l'amour demande de toi? Est-ce qu'il y a des pauvres qui sont juste en dehors de ta maison? Est-ce qu'on prie les uns pour les autres avec passion, avec compassion, avec amour, avec empathie? Je pense que l'amour doit motiver une vie de prière parce que c'est notre seule réponse. On n'a pas tout le temps la capacité d'aider. Souvent, on n'a pas la capacité d'aider. Mais on peut prier. Donc l'amour doit motiver cette vie de prière. Et sans la prière, les amis, rien ne se passe. Quelqu'un a dit, quand je prie, des coïncidences se passent. Et quand je ne prie pas, ça n'arrive pas. De démontrer une générosité radicale. D'aller vers notre prochain, de témoigner, d'inviter à l'église, c'est l'amour. Vous savez qu'il y a des statistiques qui disent, il y a plusieurs statistiques, mais il y a un nombre important de gens qui répondront oui s'ils sont invités à l'église. Certaines statistiques disent 1 sur 2 répondra oui. Après, ces stats sont basées aux États-Unis, donc peut-être en France c'est 1 sur 5. Néanmoins, il y a un nombre important de gens qui répondront oui, ils attendent simplement une invitation. Et ils n'osent pas venir parce qu'ils ne connaissent pas ou ils n'osent pas. Est-ce qu'on est prêt à aller vers notre prochain et de parfois de traverser la salle, de voir quelqu'un qui est seul, de dire « Bonjour, je m'appelle Frédéric ». Donc aimer notre prochain. La deuxième chose que j'aimerais vous soumettre, c'est ce qu'on peut faire sur cette terre, c'est de persévérer. Il y a Eugene Peterson, un pasteur, qui a écrit un livre où il a pris le titre d'un philosophe, de Nietzsche, je pense. Son livre s'appelle « La longue obéissance dans la même direction ». Et les amis, on a besoin de cette longue obéissance dans la même direction. On suit le Seigneur. Et ce qu'on peut faire sur cette terre, une fois qu'on arrive au ciel, ce sera trop tard. On peut persévérer. Et Dieu nous donne la force de persévérer. Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. » Donc les amis, nous sommes appelés à persévérer. Il y a des batailles qu'on doit vaincre pour les générations qui viennent après nous. Sinon, ils auront leur bataille plus nos batailles. Et moi je veux vous dire, Église La Source, Église Assemblée chrétienne, vous êtes chrétien? Assemblée chrétienne de Marguerite, l'église à Gignac. Je veux vous dire, au fait, vous êtes des pionniers. Vraiment, vous êtes des pionniers, mais votre travail de pionnier n'est pas terminé. Vous êtes des pionniers pour la France, vous êtes des pionniers pour cette région et pour le monde entier. C'est merveilleux la louange qui sort de vous. Et je veux vraiment vous encourager, vous êtes des pionniers, mais persévérez dans ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que le travail de pionnier, c'est dur. Vous êtes la pointe de la flèche, ça fait mal. Mais continuez, parce qu'on se bat non seulement pour nous, mais pour les générations qui viennent derrière nous. Troisièmement, et j'ai que 4 points, mais le quatrième a 16 sous-points. Non, je rigole. Aimer son prochain, persévérer. Troisième chose, c'est de grandir. De grandir. On sous-estime la maturité. Et la maturité n'est pas égale à l'âge. C'est pour ça que certains jeunes, là, devant nous, sont peut-être plus matures que certains d'entre nous. Et chacun de nous, on est dans ce processus de croissance. Et c'est ce qu'on peut faire pendant qu'on est ici sur Terre, c'est de continuer à grandir. Parce qu'une fois qu'on arrive au ciel, on n'aura plus besoin. On aura des corps glorifiés, on sera parfait, ce sera merveilleux. Mais vous savez que c'est fun de grandir. Vraiment. On partageait récemment avec... on a un petit groupe, on a un déjeuner théologique, qu'on appelle ça les vendredis midi, et on partageait la doctrine de la sanctification. Et j'ai dit, mais vous savez que c'est fun. On ne pourra pas faire ça plus tard. Mais c'est super d'avoir des victoires ici sur Terre dans notre sanctification. C'est vraiment super. On peut se réjouir. Dans le football américain, si vous comprenez le jeu, moi je ne comprends pas très bien, mais il y a des Américains là ? Il n'y a pas d'Américains ? Si ? On va prier pour toi après. Non, je rigole. On aime les Américains. Ma future belle-fille est américaine. Mais dans le football américain, au fait, chaque mètre qu'il gagne, c'est une célébration. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de football américain. Ils vont gagner 2 yards, ce qu'ils appellent ça, mais 1 mètre, et soudainement toute l'équipe, ah ouais, c'est super. Je dis, mais c'est quoi le score? Non, ça n'a pas changé, on a juste gagné 2 mètres. Et c'est comme ça parfois dans le travail de la sanctification. Les amis, chaque mètre qu'on gagne, c'est une victoire et on doit célébrer. Donc continuez à grandir, continuez ce travail de sanctification dans vos vies. Et quant au Galates 5, 22, quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Les amis, on doit grandir dans ce fruit de l'esprit. Et dans la parole de Dieu, Vanessa a déjà partagé dessus, mais Paul écrit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Est-ce qu'on dispense avec droiture, avec habileté, cette parole de la vérité? Et donc, étudie-la, c'est ce que Paul dit à Timothée. Étudie-la, creuse, jusqu'à que tu trouves l'or. Aimer notre prochain, persévérer, grandir. Et il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Et le quatrième point, c'est de prendre des risques. Une fois qu'on arrive là-bas, il n'y aura plus besoin de prendre des risques. Et quelqu'un dit que la foi s'épelle R-I-S-Q-U-E. Au fait, ça implique de marcher sur l'eau. Vous pouvez soit avoir des excuses pourquoi ce n'était pas possible, soit vous construire un témoignage de ce que Dieu a fait. Et rien n'est impossible avec Dieu. Et je veux vous encourager de continuer à ce travail de pionnier, continuer de marcher sur l'eau, continuer à sortir du bateau, continuer de faire confiance, continuer d'oser. Tout en répondant à la voix du Seigneur. On a eu la première fois l'annonce de notre bâtiment qu'on a acheté. Au fait, on a rigolé. C'était un bâtiment, on a vu ça, on a dit waouh, ce serait merveilleux pour une église. Mais on a rigolé, on a dit waouh, on est tellement loin de ça, c'était impossible. Et le prix affiché était de 13 millions et on avait 23 000 euros sur notre compte parce qu'on avait démarré un plan d'épargne. Et on avait 23 000 euros, ce qui était déjà extraordinaire. Et donc on a rigolé. Et après, à un moment, on a dit ben prions. Et quand on a commencé à prier, j'ai ressenti Dieu dire, mais pourquoi est-ce que vous riez? Ce qui est impossible pour vous n'est pas impossible pour moi. Et j'ai ressenti un peu comme Sarah, quand l'ange est venu voir Abraham et Sarah, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Sarah a ri. Et au fait, l'ange lui dit dans Genèse 18, y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop dur pour l'Éternel? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui est trop dur pour Dieu? Est-ce que vous pensez à Gignac, c'est juste trop dur pour Dieu? Donc c'est impossible. C'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fait. Après c'est possible. Et les amis, on est appelé à cette marche de foi et je vous encourage de continuer à prendre des risques pour votre vie, pour vos églises. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte, Marie a dit « Comment cela se produira-t-il? Je n'ai pas de relation avec un homme. » Et l'ange a répondu « Rien n'est impossible de la part de Dieu. » Et Marie a dit « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Les amis, on doit être à l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas juste marcher comme on veut et dire « Seigneur, viens bénir mes projets. » Il faut dire, Seigneur, quels sont tes projets et comment est-ce que je peux m'impliquer dedans? Mais les amis, une fois que Dieu nous appelle, rien n'est impossible. Et il va vous appeler continuellement à sortir du bateau, à marcher sur l'eau, à prendre des risques. Éphésiens 3, verset 20, nous dit « À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui est à l'œuvre en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. » Est-ce qu'on peut prendre juste 30 secondes? Pensez à quelque chose, ou deux choses, ou trois choses que vous pensez impossibles. Est-ce qu'on peut faire ça? Peut-être que c'est pour votre église, peut-être que c'est pour votre vie. Juste prenons 30 secondes pour penser à ça. Seigneur, tu vois dans les pensées, le cœur de chaque personne, Seigneur. Tu vois ces choses impossibles. Et Seigneur, cette parole nous dit que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et je prie, Seigneur, que tu viens faire l'impossible parmi nous. Viens faire l'impossible à travers ces communautés, Seigneur. Viens faire l'impossible, Seigneur. Viens pourvoir des bâtiments. Viens pourvoir, Seigneur, des locaux. Viens pourvoir de nouvelles villes en province. En Provence, plutôt. Seigneur, viens faire l'impossible au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. La peur, l'incertitude et parfois le coup nous arrêtent d'agir. Et juste, je vais terminer Il y a un ami qui m'a dit, on avait vu l'annonce de ce bâtiment à vendre, et je l'utilise parce que c'est une illustration, donc permettez-moi. Je me suis assis dessus pendant environ 3 semaines à moi. Je n'ai absolument rien fait, sauf à parler à deux, trois amis. Et finalement, un de mes amis m'appelle, il m'a dit, Fred, je pensais à ce bâtiment, est-ce que tu as appelé l'agent immobilier? Je dis, bien sûr que non. Il me dit, mais pourquoi pas? Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il me dit, ben, je ne sais pas, mais appelle-le. Je dis, mais pour dire quoi? Il m'a dit, mais t'es un homme, appelle-le. Et il a dit ça dans des termes moins que je ne peux pas répéter. Et donc j'ai pris mon courage en main, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais. Et donc je lui ai dit, écoutez, on est une église, voilà notre projet, voilà ce qu'on veut faire, ce bâtiment nous intéresse, et on a 23 000 euros. Et c'est miraculeux, en fait, quand on ose, quand on prend le pas. Vous savez, quand Israël a appelé, quand Dieu a appelé Israël à aller dans la terre promise, la rivière était en inondation. Et ils devaient mettre le premier pas dans cette rivière en inondation. Et après, Dieu a arrêté l'eau. Et soudainement, son cœur était bien disposé. On a été mis en contact avec le propriétaire. Son cœur était bien disposé envers nous. En fait, Dieu a fait les choses miracle après miracle après miracle. Mais si on reste dans notre peur et dans notre incertitude, on ne verra pas le miracle. Donc vraiment, je veux vous encourager à prendre des risques. Il me reste combien de temps? J'arrête. Comme je veux. OK.
Lorsqu'ils ont vraiment faim, ils vont partir.
Ils vont partir. On a besoin de garder le cœur de pionnier. Et je veux juste faire une comparaison entre un pionnier et un colon. Je crois que c'est le bon terme. Settler. C'est ça? Un pionnier voit le privilège et un colon, il voit le prix. Un pionnier vit pour l'avenir et un colon a la nostalgie du passé. Un pionnier accepte le sacrifice et un colon soupire après le confort. Un pionnier cherche des solutions et un colon dépose des plaintes. Un pionnier voit les possibilités. Un colon voit les obstacles. Et je pense qu'on doit avoir les deux. C'est bien de voir les géants et les fruits. Un pionnier entend Dieu pour eux-mêmes et un colon emprunte la vérité des autres. Et un pionnier a un témoignage actuel et un colon est satisfait du résultat du passé. Et les amis, on doit garder ce cœur de pionnier. Vous êtes nés d'une famille de pionniers, vraiment. Les églises Nouvelles Frontières, c'était un mouvement pionnier à l'époque, et qu'on continue à garder ce cœur de pionnier, parce que Dieu a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc prenez des risques avec la pratique des dons spirituels. Paul a dit, poursuivez l'amour. Et aspirer aux pratiques spirituelles, surtout à celles de parler en prophète. Prenez des risques en prenant un pas en avant. Vous savez que c'est souvent dans le mouvement que Dieu peut diriger. C'est très difficile de diriger un cheval qui ne bouge pas. Mais dès qu'il commence à bouger, il est plus maniable. Soyez en mouvement, faites un pas en avant. Peut-être certains d'entre vous, vous devez vous mettre à servir. Peut-être certains d'entre vous, vous pouvez lever la main pour prendre des responsabilités. Peut-être qu'il y a des implantations d'église dans vos cœurs et c'est tellement caché que personne ne sait, même pas votre épouse. ou votre époux. Et peut-être c'est le moment de dire, je pense que Dieu m'a appelé pour plus que ce que je vis maintenant. Peut-être c'est au niveau personnel, peut-être c'est au niveau collectif. Prenez des risques aussi financiers. Je partageais un message sur l'argent il y a plusieurs années de ça et sur le fait de donner, d'apporter sa dîme. J'ai dit la première ligne de notre budget doit être ce qui appartient à Dieu. Donc je soumets ça aux anciens. Peut-être que vous ne pensez pas, n'hésitez pas à me corriger. Vous êtes. Et donc je partageais ça avec notre église. Pour moi, c'est 10%, tout appartient à Dieu, 100% appartient à Dieu. Mais la première ligne de notre budget, c'est la dîme. Et il y a le soir, il y a une mère célibataire qui m'envoie un message, me dit, mais Fred, j'ai envie d'obéir à Dieu, mais je suis toute seule, j'ai des responsabilités, j'ai un enfant, je suis dans une vraie bataille, comment est-ce que je peux faire ça? Et j'ai répondu avec beaucoup de compassion, j'ai dit, waouh, je sais, je comprends. Et vraiment, sens-toi libre, mais va chercher la face de Dieu. Et le lendemain, elle m'écrit, elle me dit, mais au fait, il n'y a pas de débat, c'est lui qui est Dieu et pas moi. Et je dis, je m'engage à partir de ce mois-ci, de 10 de chaque mois, ma dîme arrivera dans l'église. Et vraiment, pour moi, en tant que pasteur, en tant que berger, ça me fait peur. Je dis, mais Seigneur, occupe-toi de cette famille. Et vraiment, chaque mois, quand je vois ça, je dis, Seigneur, viens bénir cette famille. Et ça fait 3 ans, fidèlement, elle a donné, elle n'a manqué de rien. Les amis, prenons le pas. Je sais qu'on n'aime pas parler de l'argent en France, mais on est pionnier, donc on doit briser ce truc-là. Au fait, les plans de Dieu surpassent nos capacités et nos imaginations. Donc aimez votre prochain, persévérez, continuez à grandir et prenez des risques, parce que ce sont des choses qu'on ne pourra pas faire plus tard. Et on a l'occasion de le faire maintenant. Merci.